Sonia. Y Anaís al teléfono de Contrabanda FM 91.4 93 317 7366. Como cada sábado a las 11 de la noche, una hora de sexo, una hora de voz de mujer, y espero otras mujeres por teléfono. Que aquí se trata de hablar a la primera persona de manera fantasiástica, imaginaria, real, lo que sea, siempre que sea relacionado al sexo, al género y al deseo y a la política y a la revolución, todos temas vinculados, que el sexo es político antes de cualquier cosa. Hace varias semanas que quería mostraros la entrevista que había hecho en Italia, ya hace dos meses, casi un mes y medio, en Roma, de las feministas de Onda Rosa, la radio feminista. Bueno, es una radio libre, pero que lleva una tarde entera de mujeres que hablan de todas temáticas, de lesbianismo, de feminismo, de marchas en contra de Berlusconi, son buenísimas. Pero hay siempre problemas técnicos. Hoy nos falla el ordenador Frankie. Y también no sé cómo funciona el LP, que quería poner unos 33 turnos. Pues no me va esto. Entonces encontré un disco muy majo de Capiche Club, que os pondré así como intermedios musicales, que estaba aquí en la radio. Acordarles que esta radio funciona de manera asociativa, cooperativa, asambleariamente, pero sobre todo con la voluntad de todos y todas, y que sin vuestro apoyo no podemos hacer nada. Entonces, como sabéis, quizás, espero que estáis enterados y enteradas que hay un riesgo que nos corten la onda por manipulación biopolítica de las ondas que todavía son libres, algunas, y en Barcelona se está tratando, bueno, en todo Cataluña, por la Generalitat, de reorganizar las ondas, y sí, para que sea supuestamente más coordinado y organizado, en realidad para que solo haya radios comerciales o de Estado, que no tienen ninguna de ambas caras, la cara de libertad. Entonces, si queréis seguir con radio informativa y de libre expresión, pues os aviso y os recomiendo enviar un mensaje de apoyo a la radiocontrabanda.org. es la web más fácil, www.contrabanda.org, o al programa Sexofonia, y yo lo pasaré. El mail de Sexofonia es sexofonia@yahoo.es. El Skype no lo puedo hacer funcionar, ¿no? Porque no funciona el ordenador. Y también apoyar con dinero, porque como sabéis estamos todos socios de la radio, no tenemos ningún apoyo institucional ni por supuesto comercial de publicidad ni nada. Entonces si queréis hacer dones está súper bienvenido. Esto también lo podéis ver por la página web de la radio, contrabanda.org. Esta radio es un milagro que existe desde 19 años. Otras existen también que os recomiendo, que es Radio Bronca, Radio Pica, que también hubo ayer una fiesta épica para apoyar a la Radio Pica, que también no tiene más que de 14 a la medianoche, creo, onda compartida en 96.6. Radio Bronca lleva también 25 años y somos todos, bueno, las tres últimas radios libres de Barcelona, que pronto solo se podrá quizás escuchar por la web, y sería una pena. Pues las ondas FM, aunque a ciertas personas les parezca anticuado, pues entonces déjanos en paz, déjanos vivir. ¡Ah! Funciona, la computadora se está prendiendo, ¡wow! Milagro otro. Pues os pondré así la cortina final. Bueno, a ver si funciona la entrevista de Onda Rosa. Mientras tanto os dejo con Capiche Club, que es bastante bastante majos estos hombres.
Mi boca es una máquina, traga perras. Vete a saber, coño, va a salir. El futuro es una puerta que se cierra del portazo, no me deja dormir. Y si me muero, ¿qué cojones? Echadme tierra. Si no hay, pues entonces se ríen. Que soy más ferro donde nadie se aferra. Es porque simplemente soy así. Solamente le pido a la vida el aire que respiras. Jugar con los pelillos de tu coño y axilas. Si tengo hambre, que me den comida. Y si tengo sed,
¡pídete limón de vivo!
Ya donde vivo, no hay quien viva. Todo el mundo cuesta abajo, este cuesta arriba. Si tu cuerpo no está allí, solamente pasa en contadas ocasiones. Ocasiones que no pienso decir. Defino el objeto de morirme de asco, aunque de algo sea de morir. A ti todo mascado y yo ni más culeja el dulce por venir. No sé,
no sé si pienso mucho, me atasco. No sé por qué he vuelto a escribir. Mejor voy al lavabo y allí me la casco con foto de Angelina Jolie.
Solamente le pido a la vida el aire que respiras. Jugar con los pelillos de tu coño y axilas. Si tengo hambre, que me den comida. Y si tengo sed,
porque el archivo que tengo es AMR, no se lee ni con VL, puta, sí. Entonces no pasa nada. He pensado en traer mis libros preferidos, mi libro de chevet, tres libros que, claro, que me podéis interrumpir a cualquier momento, 933177366, o el Skype, que por suerte funciona, con el identificador Sexofonía, directamente me llegas a cualquier sitio. Espero que me escuchan desde Milán. Si no, pues pata por culo. Y entonces, Roland Barthes, Le plaisir du texte, Proudhon, La pornocracia, y Henry Miller, Opus Pistorum, en castellano este, porque por suerte está aquí, en las buenas librerías. Roland Barthes es uno de estos intelectuales que en Francia en los 50, 60 abrieron campos tan grandes que no se pueden definir en solo uno, como semiología, que por suerte y por cierto se encaja dentro, pero también es más amplio, es como una filosofía de la lengua, o Y es uno de los primeros que he leído de muy joven las mitologías y que se puede leer realmente desde los 13 años sin problemas. Espero que haya jóvenes que me escuchen, sería lo mejor. Pero bueno, este, Le plaisir du texte es del goce que se lleva del texto. Y a mí me parece que tiene mucho que ver el goce con sexofonía, o al revés, sexofonía tiene mucho que ver con el goce, y que el texto y la poesía y la palabra y la prosa y el verbo es una, para mí, de las herramientas que tenemos más potentes para comunicar deseo, gusto, placer, amor y proyección hacia el otro. Y de realidad, acabo de escuchar a Maffesoli, Michel Maffesoli, otro intelectual importante francés, pero de hoy, en la central en Mallorca, que hablaba de la... que os leeré. Es muy controversial, pero igual es interesante porque habla de la, justamente del espermático del lenguaje tal como se ha practicado en la modernidad, y le opone una vaginación de la imagen. Ya os hablaré más con textos, además que ahora se ha publicado muchos en castellano. De eso se trataba en la central, y lo último es iconologías, por eso venía. Entonces, volvemos a los años 60, me parece, que 73, pues la edad de mi edad, tiene mi edad este texto, y a ver cómo se define el placer del texto. Según Roland Barthes, que murió en 81, atravesado por un coche saliendo del Collège de France, donde daba sus clases. Espero que me entendéis, si no, pues me llamáis y lo hablamos. Le plaisir du texte. Tel le simulateur de Bacon, il peut dire ne jamais s'excuser, ne jamais s'expliquer. Il ne nie jamais rien. Je détournerai mon regard, ce sera désormais ma seule négation. Fiction d'un individu, quelque monsieur Test à l'envers, qui abolirait en lui les barrières, les classes, les exclusions, non par syncrétisme, mais par simple débarras de ce vieux spectre, la contradiction logique, qui mélangerait tous les langages, fussent-ils réputés incompatibles, qui supporterait muet toutes les accusations d'illogisme, d'infidélité, qui resterait impassible devant l'ironie socratique, amener l'autre au suprême opprobre, se contredire, et la terreur légale, combien de preuves pénales fondées sur une psychologie de l'unité. Cet homme serait l'abjection de notre société. Les tribunaux, l'école, l'asile, la conversation en feraient un étranger. Qui supporte sans honte la contradiction? Or, ce contre-héros existe. C'est le lecteur de texte, dans le moment où il prend son plaisir. Alors, le vieux mythe biblique se retourne, la confusion des langues n'est plus une punition, le sujet accède à la jouissance par la cohabitation des langages qui travaillent côte à côte. Le texte de plaisir, c'est Babel heureuse. Plaisir, jouissance. Terminologiquement, cela vacille encore, j'achoppe, j'embrouille. De toute manière, il y aura toujours une marge d'indécision. La distinction ne sera pas source de classement sûr. Le paradigme grincera, le sens sera précaire, révocable, réversible, le discours sera incomplet. Si je lis avec plaisir cette phrase, cette histoire ou ce mot, c'est qu'ils ont été écrits dans le plaisir. Ce plaisir n'est pas en contradiction avec les plaintes de l'écrivain. Mais le contraire, écrire dans le plaisir, m'assure-t-il, moi, écrivain, du plaisir de mon lecteur? Nullement. Ce lecteur, il faut que je le cherche, que je le drague, sans savoir où il est. Un espace de la jouissance est alors créé. Ce n'est pas la personne de l'autre qui m'est nécessaire, c'est l'espace, la possibilité d'une dialectique du désir, d'une imprévision de la jouissance. Que les jeux ne soient pas faits, qu'il y ait un jeu. On me présente un texte. Ce texte m'ennuie. On dirait qu'il babille. Le babil du texte, c'est seulement cette écume du langage qui se forme sous l'effet d'un simple besoin d'écriture. On n'est pas ici dans la perversion, mais dans la demande. Écrivant son texte, le scripteur prend un langage du nourrisson. Impératif, automatique, inaffectueux, petite débâcle de clics, Ces phénomènes lactés que le jésuite merveilleux Van Giekenen plaçait entre l'écriture et le langage, ce sont les mouvements d'une succion sans objet, d'une oralité indifférenciée, coupée de celle qui produit les plaisirs de la gastrosophie et du langage. Vous vous adressez à moi pour que je vous lise, mais je ne suis rien d'autre pour vous que cette adresse. Je ne suis à vos yeux le substitut de rien. Je n'ai aucune figure, à peine celle de la mère. Je ne suis pour vous ni un corps, ni même un objet. Je m'en moquerai bien, ce n'est pas en moi l'âme qui réclame sa reconnaissance, mais seulement un champ, un vase d'expansion. On peut dire que finalement ce texte, vous l'avez écrit hors de toute jouissance. Et ce texte Babil est en somme un texte frigide, comme l'est toute demande avant que ne s'y forme le désir, la névrose. La névrose est un pis-aller, non par rapport à la santé, mais par rapport à l'impossible dont parle Bataille. La névrose est l'appréhension timorée d'un fond d'impossible, etc. Mais ce pis-aller est le seul qui permet d'écrire et de lire. On en vient alors à ce paradoxe. Les textes, comme ceux de Bataille ou d'autres, qui sont écrits dans « Contre la névrose » du sein de la folie, ont en eux, s'ils veulent être lus, ce peu de névrose nécessaire à la séduction de leurs lecteurs. Ces textes terribles sont tout de même des textes coquets. Tout écrivain dira donc « Fou ne puis, saint ne daigne, névrosé je suis ». Le texte que vous écrivez doit me donner la preuve qu'il me désire. Cette preuve existe, c'est l'écriture. L'écriture est ceci, la science des jouissances du langage, son Kamasutra. De cette science, il n'y a qu'un traité, l'écriture elle-même. Sade, le plaisir de la lecture vient évidemment de certaines ruptures ou de certaines collisions, des codes antipathiques, le noble et le trivial par exemple, entrent en contact. Des néologismes pompeux et dérisoires sont créés. Des messages pornographiques viennent se mouler dans des phrases si pures qu'on les prendrait pour des exemples de grammaire. Comme dit la théorie du texte, la langue est redistribuée. Or, cette redistribution se fait toujours par coupure. Deux bords sont tracés. Un bord sage, conforme, plagiaire. Il s'agit de copier la langue dans son état canonique, tel qu'il a été fixé par l'école, le bon usage, la littérature, la culture. Et un autre bord, mobile, vide, apte à prendre n'importe quel contour, qui n'est jamais que le lieu de son effet, là où s'entrevoit la mort du langage. Ces deux bords, le compromis qu'ils mettent en scène, sont nécessaires. La culture ni sa destruction ne sont érotiques. C'est la faille de l'une et de l'autre qui le devient. Le plaisir du texte est semblable à cet instant intenable, impossible, purement romanesque, que le libertin goûte au terme d'une machination hardie, faisant couper la corde qui le pend au moment où il jouit. De là, peut-être, un moyen d'évaluer les œuvres de la modernité. Leur valeur viendrait de leur duplicité. Il faut entendre par là qu'elles ont toujours deux bords. Le bord subversif peut paraître privilégié parce qu'il est celui de la violence. Mais ce n'est pas la violence qui impressionne le plaisir. La destruction ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est le lieu d'une perte. C'est la faille, la coupure, la déflation, le fading qui saisit le sujet au cœur de la jouissance. La culture revient donc comme bord, sous n'importe quelle forme. Surtout, évidemment, c'est là que le bord sera le plus net, sous la forme d'une matérialité pure. La langue, son lexique, sa métrique, sa prosodie. Dans « Loi » de Philippe Solers, tout était attaqué, déconstruit. Les édifices idéologiques, les solidarités intellectuelles, la séparation des idiomes et même l'armature sacrée de la syntaxe sujet-prédicat. Le texte n'a plus la phrase pour modèle. C'est souvent un jet puissant de mots, un ruban d'infralangue. Cependant, tout cela vient buter contre un autre bord, celui du maître, des cassyllabiques, de l'assonance, des néologismes vraisemblables, des rythmes prosodiques, des trivialismes situationnels, la déconstruction de la langue est coupée par le dire politique, bordé par la très ancienne culture du signifiant. Dans « Cobra » de Severo Sarduy, traduit par Solers et l'auteur, l'alternance est celle de deux plaisirs en état de surenchérissement. L'autre bord, c'est l'autre bonheur. Encore, encore, encore plus, Encore un autre mot, encore une autre fête. La langue se reconstruit ailleurs par le flux pressé de tous les plaisirs de langage. Où ? Ailleurs. Au paradis des mots. C'est là véritablement un texte paradisiaque, utopique, sans lieu, une hétérologie par plénitude. Tous les signifiants sont là et chacun fait mouche. L'auteur, le lecteur, semble leur dire « Je vous aime tous ». Mots, tours, phrases, adjectifs, ruptures, pêle-mêle, les signes et les mirages d'objets qu'ils représentent. Une sorte de franciscanisme appelle tous les mots à se poser, à se presser, à repartir. Texte jaspé, chiné. Nous sommes comblés par le langage, tels de jeunes enfants à qui rien ne serait jamais refusé, reproché, ou pire encore, permis. C'est la gageure d'une jubilation continue, le moment où par son excès, le plaisir verbal suffoque et bascule dans la jouissance. Flaubert, une manière de couper, de trouer le discours sans le rendre insensé. Certes, la rhétorique connaît les ruptures de construction, anacolute, et les ruptures de subordination, ascendette. Mais pour la première fois avec Flaubert, la rupture n'est plus exceptionnelle, sporadique, brillante, sertie dans la matière vile d'un énoncé courant. Il n'y a plus de langue en deçà de ces figures, ce qui veut dire, en un autre sens, il n'y a plus que la langue. Une ascendette généralisée saisit toutes les énonciations, en sorte que ce discours très lisible est en sous-main l'un des plus fous qu'on puisse imaginer. Toute la petite monnaie logique est dans les interstices. Voilà un état très subtil, presque intenable du discours. La narrativité est déconstruite et l'histoire reste cependant lisible. Jamais les deux bords de la faille n'ont été plus nets et plus ténus, jamais le plaisir mieux offert au lecteur, si du moins il a le goût des ruptures surveillées, des conformismes truqués et des destructions indirectes. De plus, la réussite pouvant être ici reportée à un auteur, il s'y ajoute un plaisir de performance. La prouesse est de tenir la mimésis du langage. Le langage s'imitant lui-même. Source de grand plaisir, d'une façon si radicalement ambiguë, ambiguë jusqu'à la racine, que le texte ne tombe jamais sous la bonne conscience et la mauvaise foi de la parodie, du rire castrateur, du comique qui fait rire. L'endroit le plus érotique d'un corps n'est-il pas là où le vêtement bâille ? Dans la perversion, qui est le régime du plaisir textuel, il n'y a pas de zone érogène, l'expression reste assez casse-pied. C'est l'intermittence, comme l'a bien dit la psychanalyse, qui est érotique. Celle de la peau qui scintille entre deux pièces, le pantalon et le tricot, entre deux bords, la chemise entrouverte, le gant et la manche. C'est ce scintillement même qui séduit, ou encore la mise en scène d'une apparition-disparition. Ce n'est pas là le plaisir du striptease corporel ou du suspense narratif. Dans l'un et l'autre cas, pas de déchirure, pas de bord, un dévoilement progressif. Toute l'excitation se réfugie dans l'espoir de voir le sexe, rêve de collégien, ou de connaître la fin de l'histoire, satisfaction romanesque. Paradoxalement, puisqu'il est de consommation massive, c'est un plaisir bien plus intellectuel que l'autre. Plaisir oedipéen, dénuder, savoir, connaître l'origine et la fin, s'il est vrai que tout récit, tout dévoilement de la vérité est une mise en scène du père, absent, caché ou hypostasié. Ce qui expliquerait la solidarité des formes narratives, des structures familiales et des interdictions de nudité, toutes rassemblées chez nous dans le mythe de Noé recouvert par ses fils. Pourtant, le récit le plus classique, un roman de Zola, de Balzac, de Dickens, de Tolstoï, porte en lui une sorte de thèse affaiblie. De thèse affaiblie. Nous ne lisons pas tout avec la même intensité de lecture. Un rythme s'établit, désinvolte, peu respectueux à l'égard de l'intégrité du texte. L'avidité même de la connaissance nous entraîne à survoler ou à enjamber certains passages pressentis ennuyeux pour retrouver au plus vite les lieux brûlants de l'anecdote, qui sont toujours ses articulations, ce qui fait avancer le dévoilement de l'énigme ou du destin. Nous sautons impunément, personne ne nous voit, les descriptions, les explications, les considérations, les conversations. Nous sommes alors semblables à un spectateur de cabaret qui monterait sur la scène et hâterait le striptease de la danseuse en lui ôtant prestement ses vêtements, mais dans l'ordre. C'est-à-dire en respectant d'une part et en précipitant de l'autre les épisodes du rite, tel un prêtre qui avalerait sa messe. La Tmez, source ou figure du plaisir, met ici en regard deux bords prosaïques. Elle oppose ce qui est utile à la connaissance du secret et ce qui lui est inutile. C'est une faille issue d'un simple principe de fonctionnalité. Elle ne se produit pas à même la structure des langages, mais seulement au moment de leur consommation. L'auteur ne peut la prévoir. Il ne peut vouloir écrire ce qu'on ne lira pas. Et pourtant, c'est le rythme même de ce qu'on lit et de ce qu'on ne lit pas qui fait le plaisir des grands récits. A-t-on jamais lu Proust, Balzac, Guerre et Paix, mot à mot? Bonheur de Proust, d'une lecture à l'autre ne saute jamais les mêmes passages. Ce que je goûte dans un récit, ce n'est donc pas directement son contenu ni même sa structure, mais plutôt les éraflures que j'impose à la belle enveloppe. Je cours, je saute, je lève la tête, je replonge. Rien à voir avec la profonde déchirure que le texte de jouissance imprime au langage lui-même, et non à la simple temporalité de sa lecture. D'où deux régimes de lecture. L'une va droit aux articulations de l'anecdote. Elle considère l'étendue du texte, ignore les jeux de langage. Si je lis du Jules Verne, je vais vite, je perds du discours et cependant ma lecture n'est fascinée par aucune perte verbale, au sens que ce mot peut avoir en spéléologie. L'autre lecture ne passe rien. Elle pèse, colle au texte, elle lit, si l'on peut dire, avec application et emportement, saisit en chaque point du texte la scindette qui coupe les langages, et non l'anecdote. Ce n'est pas l'extension logique qui la captive, l'effeuillement des vérités, mais le feuilleté de la signifiance. Comme au jeu de la main chaude, l'excitation vient non d'une hâte processive, mais d'une sorte de charivari verticale, la verticalité du langage de sa destruction. C'est au moment où chaque main différente saute par-dessus l'autre, et non l'une après l'autre, que le trou se produit et emporte le sujet du jeu, le sujet du texte. Or, paradoxalement, dans l'opinion croit qu'il suffit d'aller vite pour ne pas s'ennuyer, cette seconde lecture, appliquée au sens propre, est celle qui convient au texte moderne, au texte limite. Lisez lentement, lisez tout d'un roman de Zola. Le livre vous tombera des mains. Lisez vite, par bribes, un texte moderne, ce texte devient opaque, fort clos à votre plaisir. Vous voulez qu'il arrive à quelque chose? Il n'arrive rien. Car ce qui arrive au langage n'arrive pas au discours. Ce qui arrive, ce qui s'en va, la faille des deux bords, l'interstice de la jouissance, se produit dans le volume des langages, dans l'énonciation, non dans la suite des énoncés. Ne pas dévorer, ne pas avaler, mais brouter, tondre avec minutie, retrouver pour lire ces auteurs d'aujourd'hui le loisir des anciennes lectures, être des lecteurs aristocratiques. Si j'accepte de juger un texte selon le plaisir, je ne puis me laisser aller à dire « celui-ci est bon, celui-ci est mauvais ». Pas de palmarès, pas de critique, car celle-ci implique toujours une visée tactique, un usage social et bien souvent une couverture imaginaire. Je ne puis doser, imaginer que le texte soit perfectible, prêt à entrer dans un jeu de prédicats normatifs, c'est trop ceci, ce n'est pas assez cela. Le texte, il en est de même pour la voix qui chante, ne peut m'arracher que ce jugement nullement adjectif, c'est ça. Et plus encore, c'est cela pour moi. Ce pour moi n'est ni subjectif, ni existentiel, mais nietzschéen. Au fond, c'est toujours la même question. Qu'est-ce que c'est pour moi ? Le brio du texte, sans quoi en somme il n'y a pas de texte, ce serait sa volonté de jouissance, là même où il excède la demande, dépasse le babil et par quoi il essaye de déborder, de forcer la mainmise des adjectifs, qui sont ces portes du langage par où l'idéologique et l'imaginaire pénètrent à grand flot. Texte de plaisir, celui qui contente, emplit, donne de l'euphorie, celui qui vient de la culture, ne rompt pas avec elle, est lié à une pratique confortable de la lecture. Texte de jouissance, celui qui met en état de perte, celui qui déconforte, peut-être jusqu'à un certain ennui, fait vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs et de ses souvenirs, met en crise son rapport au langage. Or c'est un sujet anachronique, celui qui tient les deux textes dans son champ et dans sa main les rênes du plaisir et de la jouissance, car il participe en même temps et contradictoirement à l'hédonisme profond de toute culture, qui entre en lui paisiblement sous le couvert d'un art de vivre dont font partie les livres anciens, et à la destruction de cette culture. Il jouit de la conscience, consistance de son moi, c'est son plaisir, et recherche sa perte, c'est sa jouissance. c'est un sujet deux fois clivé, deux fois pervers. Société des Amis du Texte, ses membres n'auraient rien en commun, car il n'y a pas forcément accord sur les textes du plaisir, sinon leurs ennemis, casse-pieds de toutes sortes, qui décrètent la forclusion du texte et de son plaisir, soit par conformisme culturel, soit par rationalisme intransigeant, suspectant une mystique de la littérature, soit par moralisme politique, soit par critique du signifiant, soit par pragmatisme imbécile, soit par niaiserie loustique, soit par destruction du discours, perte du désir verbal. Une telle société n'aurait pas de lieu, ne pourrait se mouvoir qu'en pleine atopie. Ce serait pourtant une sorte de phalanstère, car les contradictions y seraient reconnues, et donc restreint les risques d'imposture idéologique, la différence y serait observée et le conflit frappé d'insignifiance, étant un producteur de plaisir. Que la différence se glisse subrepticement à la place du conflit. La différence n'est pas ce qui masque ou édulcore le conflit. Elle se conquiert sur le conflit. Elle est au-delà et à côté de lui. Le conflit ne serait rien d'autre que l'état moral de la différence. Chaque fois, et cela devient fréquent, qu'il n'est pas tactique visant à transformer une situation réelle, on peut pointer en lui le manque à jouir, l'échec d'une perversion qui s'aplatit sous son propre code et ne sait plus s'inventer. Le conflit est toujours codé. L'agression n'est que le plus éculé des langages. En refusant la violence, c'est le code même que je refuse. Dans le texte sadien, hors de tout code, puisqu'il invente continuellement le sien propre et le sien seul, il n'y a pas de conflit, rien que des triomphes. J'aime le texte parce qu'il est pour moi cet espace rare de langage duquel toute scène, au sens ménager, conjugal du terme, toute logomachie est absente. Le texte n'est jamais un dialogue, aucun risque de feinte, d'agression, de chantage, aucune rivalité d'idiolecte. Il institue au sein de la relation humaine, courante, une sorte d'îlot, manifeste la nature asociale du plaisir, seul le loisir est social, fait entrevoir la vérité scandaleuse de la jouissance, qu'elle pourrait bien être, tout imaginaire de parole étant abolie, neutre. Sur la scène du texte, pas de rampe. Il n'y a pas derrière le texte quelqu'un d'actif, l'écrivain, et devant lui quelqu'un de passif, le lecteur. Il n'y a pas un sujet et un objet. Le texte périme les attitudes grammaticales. Il est l'œil indifférencié dont parle un auteur excessif. Angelus Silesius, l'œil par où je vois Dieu et le même œil par où il me voit. Il paraît que les érudits arabes, en parlant du texte, emploient cette expression admirable, le corps certain. Quel corps ? Nous en avons plusieurs. Le corps des anatomistes et des physiologistes, celui qui voit ou que parle la science. C'est le texte des grammairiens, des critiques, des commentateurs, des philologues, c'est le phénotexte. Mais nous avons aussi un corps de jouissance fait uniquement de relations érotiques, sans aucun rapport avec le premier. C'est un autre découpage, une autre nomination, ainsi du texte. Il n'est que la liste ouverte des feux de langage, ces feux vivants, ces lumières intermittentes, ces traits baladeurs disposés dans le texte comme des semences et qui remplacent avantageusement pour nous les semina aeternitatis, les opira, les notions communes, les assomptions fondamentales de l'ancienne philosophie. Le texte a une forme humaine, c'est une figure, un anagramme du corps. Mais, oui, mais de notre corps érotique, le plaisir du texte serait irréductible à son fonctionnement grammairien, phénotextuel, comme le plaisir du corps est irréductible aux besoins physiologiques. Le plaisir du texte, c'est ce moment où mon corps va suivre ses propres idées, car mon corps n'a pas les mêmes idées que moi. Comment prendre plaisir à un plaisir rapporté, ennui des récits de rêves, de parties? Comment lire la critique? Un seul moyen, puisque je suis ici un lecteur au second degré, il me faut déplacer ma position. Ce plaisir critique, au lieu d'accepter d'en être le confident, moyen sûr pour le manquer, je puis m'en faire le voyeur. J'observe clandestinement le plaisir de l'autre. J'entre dans la perversion. Le commentaire devient alors à mes yeux un texte, une fiction, une enveloppe fissurée. Perversité de l'écrivain, son plaisir d'écrire est sans fonction. Double et triple perversité du critique et de son lecteur à l'infini. Un texte sur le plaisir ne peut être autre chose que court. Comme on dit, c'est tout, c'est un peu court. Parce que le plaisir ne se laissant dire qu'à travers l'indirect d'une revendication, j'ai droit au plaisir, on ne peut sortir d'une dialectique brève à deux temps. Le temps de la doxa, de l'opinion, et celui de la paradoxa, de la contestation. Un troisième terme manque, autre que le plaisir et sa censure, ce terme est remis à plus tard. Et tant qu'on s'accrochera au nom même du plaisir, tout texte sur le plaisir ne sera jamais que dilatoire. Ce sera une introduction à ce qui ne s'écrira jamais. Semblable à ces productions de l'art contemporain qui épuisent leur nécessité aussitôt qu'on les a vues, car les voir, c'est immédiatement comprendre à quelle fin destructive elles sont exposées. Il n'y a plus en elles aucune durée contemplative ou délectative. Une telle introduction ne pourrait que se répéter, sans jamais rien introduire. Le plaisir du texte n'est pas forcément de type triomphant, héroïque, musclé, pas besoin de se cambrer. Mon plaisir peut très bien prendre la forme d'une dérive. La dérive advient chaque fois que je ne respecte pas le tout, et qu'à force de paraître emporté ici et là, au gré des illusions, séductions et intimidations de langage, tel un bouchon sur la vague, je reste immobile, pivotant sur la jouissance intraitable qui me lie au texte, au monde. Il y a dérive chaque fois que le langage social, le sociolecte, me manque. Comme on dit, le cœur me manque. C'est pourquoi un autre nom de la dérive, ce serait l'intraitable, ou peut-être encore la bêtise. Cependant, si l'on y parvenait, dire la dérive serait aujourd'hui un discours suicidaire. Wow, bueno. En media hora, os he leído la mitad del texto, más o menos, que es muy corto, son 80 páginas de un poche, una edición de bolsillo. Estoy en la página 30, bueno, más o menos un tercio del libro. Y trata pues de la idea que la se interesa al placer del texto y del al goce del texto y los opone explicando que el placer del texto sería como bueno el gusto de ir de un punto al otro, de entender, lo llama edipiano porque es entender tanto el origen como el fin, que sería la búsqueda de Edipo, o sea, de manera metafórica, claro, o más bien Edipo sería la concreción física del entendimiento del fin y del principio de fin y de origen, porque follar con su madre es entender el principio de origen y tener hijo con ella es el fin. Y le opone a este placer de entender, ¿no? De el recorrido que hace el texto desde un origen a un fin, dentro de una narración, le opone el texto de la neurosis, que sería el texto de la, del goce, y le opone justamente la idea que la, la neurosis es la única forma a través del deseo, de crear deseo y de crear goce. Le opone la, el babil, que sería la, el lenguaje de los guaguas, de la, de los bebés, que es la idea de eructar, de proyectar palabras sin, sin tener destino, sin, adresarse a nadie, mientras que la, la literatura del goce sería necesariamente decidir un lector, decidir orientarse y dirigirse hacia una persona y follar con ella, metafóricamente, a través del texto, querer dar goce, querer orientar su, su práctica textual, sería la manera de dar un placer que sea perverso, que sea neurótico. También, porque es muy, muy denso este texto, habla de tantas cosas y muchos subentendidos, va trazando un poco una historia de la literatura rápida, pasando por Flaubert en el mitad del siglo XIX, Zola, final del siglo XIX, Proust, principio del XX, explicando cómo hay siempre una manera que tenemos de leer es saltar pasajes, y estos pasajes que nos saltamos son los que hacen la, la fricción del, del lenguaje de, dentro del texto, que es este momento donde el texto no está y no está dando una anécdota, está más bien en un tiempo de descripción, de conversación y tal. Y que cuando nos saltamos estos textos es porque queremos ir al punto del nudo, ¿no? De la acción supuestamente narrativa. Mientras que en realidad estos momentos que saltamos son el momento del placer del texto, el momento donde se da el texto, se ofrece, no a, a nosotros que no nos interesa, pero a un lector que no hay. Y el texto moderno le opone a, esta, a este tiempo, hasta Proust, a este tiempo premoderno, donde había estos tiempos largos, como en Tolstoy, de descripciones. Yo siempre de joven me lo pasaba. Bueno, dependía, pero cuando estaba nerviosa o pensaba en otras cosas, pues iba rápido al, al nudo, ¿no? Y justamente haciéndolo, me perdía el placer del texto, ¿no? Entonces explica que en el tiempo moderno no se puede saltar textos enteros así, porque todo es una concreción, todo es denso, todo está hecho para romper el lenguaje y darle una caña, una cosa más áspera, que es... que da por el goce, que va por el goce. Entonces, bueno, es un texto buenísimo, buenísimo, buenísimo. otro texto que la verdad me ha caído de las manos cuando lo leí, porque me hacía un placer de leerlo desde años, y de pronto me lo encontré en una librería, me lo compré, es La Pornocracia de Proudhon. En Le Cahier de Lerne fue publicado por primera vez en 1800. A ver, ¿dónde está? Bueno, 55 por ahí, 1855 creo. Proudhon es un gran pensador del anarquismo en el siglo XIX, contemporáneo de Marx. Que en Francia tuvo un espectacular reconocimiento y seguidores. Siempre me ha parecido muy, me parecía muy seductoras sus teorías del anarquismo, pero no podía entrar completamente. Y la verdad, hacía como 15 años que no leía nada de él, me parece, porque esto... me parece que lo leí más a los 15, 19 años. Pero bueno, es una cosa que realmente es vergonzosa. Lo digo como materia de introducción A ver qué os parece, si entendéis el francés, espero que sí. Es totalmente misógino y de una manera tan idiota que es difícil pensar que es un pensador que lo está enunciando. Parece realmente de un nivel de todos estos locos pensando, inventando categorías humanas, los que después dieron, fueron retomados por los nazis, los fisionomonistas, por ejemplo, que decían que un judío tenía tal aspecto de la nariz, un hombre inteligente tenía tal la frente más grande, o sea, tonterías que fueron reveladas absurdas por la ciencia racionalista y que, bueno, hizo test mucho más agudos. Pero bueno, siempre en los balbucimientos, ¿cómo se llama? Balbuciment, tartamudean de la ciencia cuando va, pues empieza, ¿no? Unas categorías científicas, pues siempre hay locos que se ponen en el medio y inventan cosas increíbles. Pues me parece que Proudhon, o tenía poca imaginación justamente, o poco conocimiento, o se bornaba a ver lo que había en vez de ver lo que podía tener, lo cual me parece muy, muy dramático de parte de una persona que inventó revolución, realmente. Bueno, en fin, os lo leo, a ver si podemos discutir después. Primera página. Premier capitulo. Vous plaît-il, mesdames, que nous y allions de franc jeu? Avouez que ce qui vous irrite dans mon étude n'est pas le préjudice que ma théorie du mariage peut causer à votre sexe. Vous savez parfaitement qu'il n'a de ce côté rien à craindre. De mon côté, je suis prêt à confesser que lorsque j'ai parlé, avec une certaine ironie, des faiblesses et des misères de la femme, je pensais à autre chose encore qu'à la plus belle moitié du genre humain. De vous à moi, la querelle est toute personnelle. Ni l'épouse, ni la mère, ni la fille, pas plus que le chef de la communauté, n'y sont intéressés. C'est ce dont je voudrais que toute honnête femme qui lira ceci fût d'abord convaincue. La question du mariage, telle que je l'ai posée, peut se ramener à ce dilemme. 1. Où l'homme et la femme, considérés dans leur triple manifestation physique, intellectuelle et morale, sont égaux en toutes leurs facultés. Dans ce cas, ils doivent être égaux encore dans la famille, l'économie, le gouvernement, la magistrature, la guerre, en un mot dans toutes les fonctions publiques et domestiques. 2. Ou bien ils sont seulement équivalents, chacun ayant en prédominance une prérogative spéciale, l'homme la force, la femme la beauté. Dans ce cas, la balance de leurs droits et leurs devoirs respectifs doit être faite d'une autre manière, mais d'une manière telle qu'en résultat, il y ait entre les deux sexes égalité de bien-être et d'honneur. Dans les deux hypothèses, le droit et la dignité de la femme sont reconnus. Elle peut se dire affranchie, elle est sauvée. Il n'y a pas un troisième système. En bonne justice, vous me deviez des éloges pour avoir su réduire à une question aussi ardue à une alternative aussi simple. Quoi qu'il advienne, le législateur père de famille, philosophe, économiste ou moraliste est tenu de fournir une équation, car ainsi que je le fais observer moi-même, on ne peut pas admettre que la femme, créature raisonnable et morale, compagne de l'homme, soit traitée comme si son sexe impliquait d'échéance. Pourquoi, au lieu de m'injurier, ne vous êtes-vous pas borné à prendre acte de mes paroles? Entonces, él les está entonces haciendo una adresa a las mujeres que han leído sus estudios, décima y undécimal, de su libro de la justicia en la revolución y en la iglesia, de la justice dans la révolution et dans l'église. Je sais bien que d'après le préjugé régnant, préjugé qui est le vôtre, la beauté semble quelque chose de fort peu de poids, une pure imagination, une non-réalité. Que lorsque je dis « oui, l'homme est plus fort, mais la femme est plus belle », j'ai l'air de faire une mauvaise plaisanterie. C'est, à votre jugement, comme si je posais sur la tête de l'homme le signe positif « plus », sur celle de la femme le signe négatif « moins ». La beauté, se dit-on, qu'est-ce que cela? Pour combien cela compte-t-il dans le gouvernement, dans le ménage ou sur le marché? C'est ainsi que résonne le vulgaire, qui n'admet de réalité que celles qui se mesurent au poids et au litre. Et que vous raisonnez vous-même, mesdames, car avec votre superbe, il s'en faut de beaucoup que vous soyez aussi affranchis que vous le dites. Eh bien, non, la beauté n'est pas un néant. Et sur ce point, vous me permettrez de dire que les messieurs sont juges plus compétents que les dames. La beauté, n'oublions pas que je parle de la beauté comme de la force, à tous les points de vue physique, intellectuel et moral, n'est pas un néant. C'est le corrélatif de la force, une puissance, une vertu, un je ne sais quoi, dont il est plus aisé de montrer l'action que de définir l'essence. Mais quelque chose qui n'est pas rien, puisque ce qui agit et qui sert de corrélatif à la force et à la substance ne peut pas être rien. J'ai essayé dans une étude spéciale d'expliquer le rôle de l'idéal dans le mouvement humanitaire. J'ai cru reconnaître en lui cette grâce prémouvante par laquelle les théologiens expliquent toutes les vertus et les progrès de l'humanité. J'ai dit que sans cette puissance d'idéalisation, l'homme, sans souci de sa dignité, resterait sourd aux sollicitations de sa conscience. Et quand plus tard, dans une autre étude, j'ai fait de la femme la représentation vivante de cet idéal, je n'ai fait autre chose que rendre plus concrète une pensée jusque-là perdue dans les abstractions des théologiens et des philosophes. Ah, si le vénérable père enfantin s'était avisé de pareilles choses, s'il avait dit que la beauté chez la femme est plus efficace, plus créatrice que la force chez son compagnon, attendu que c'est la beauté qui, la plupart du temps, mène la force, que d'applaudissements, que de bouquets, que de baisers. Maintenant, mesdames, il est possible que je me trompe. Il se peut que l'idéal, que la femme et sa beauté n'aient pas dans la société humaine l'importance que je leur assigne. Il se peut même qu'en déclarant, avec la presque universalité de mes pareils, la femme plus belle que l'homme, j'ai tout simplement fait preuve de mauvais goût. Il se peut, dis-je, que les femmes, dont la figure nous séduit, soient réellement laides. D'autant plus laides qu'elles ont le privilège de se rendre affreuses en voulant ressembler aux hommes. Y avait-il pour vous, dans cette inoffensive erreur, le moindre sujet de fâcherie? Quel mal cela faisait-il à vous et à votre cause? À tout le moins, vous me deviez compte de ma bonne intention, puisqu'en définitive, en réalisant, pour ainsi dire, dans la personne de la femme l'éternelle et céleste beauté, j'ajoutais à l'actif de votre sexe une valeur énorme. Singulières avocates qui vous plaignez que vos contradicteurs vous fournissent vos moyens les plus décisifs, vos titres les plus solides, qui trouvez mauvais que nous vous fassions la mariée trop belle. Tout ceci admis, je me suis demandé, qu'est-ce que le mariage? L'union de la force et de la beauté. Union aussi indissoluble que celle de la forme et de la matière, dont le divorce implique destruction de toutes deux. C'est précisément en cela que le mariage diffère de la société civile et commerciale, essentiellement résoluble et dont l'objet est le gain. La force et la beauté s'unissent à titre gratuit. Elles ne se payent pas réciproquement, la première en service, la seconde en faveur. Il n'y a pas de commensuration possible entre les fruits du travail et les dons de l'idéal. Le mariage, dans la pureté de son idée, est un pacte de dévouement absolu. Le plaisir n'y figure qu'en second ordre. Tout échange des richesses que produit l'homme contre les joies que procure la femme, tout commerce de volupté est concubinat, pour ne pas dire prostitution mutuelle. C'est ainsi que le mariage devient pour les époux un culte de la conscience et pour la société l'organe même de la justice. Un mariage sain, qu'il ne rend pas les époux, s'il ne rend pas les époux impeccables, exclut de leur part, vis-à-vis des étrangers, tout crime et folonie. Tandis que le concubinat, soit l'union de l'homme et de la femme, secrète ou solennelle, mais formée seulement en vue du plaisir, bien que dans certains cas excusable, c'est le repère habituel des parasites, des voleurs, des faussaires et des assassins. Bueno, es que realmente me da unos granos a la piel directa. Primero que es una defensa del matrimonio que tengo muchísimo respaldo, execración. diciendo que el punto del matrimonio es la unión de la fuerza del hombre y la belleza de la mujer, que el hombre se reconoce por su fuerza y tanto físico como intelectual como moral, y la mujer por su belleza tanto física como intelectual como moral, que es ahí que aparentemente las mujeres le pegaron, o sea, en hostias, supongo, de la época de los salones, en polémicas así públicas. Y él se reclama que sí, que la belleza es una cosa enorme, que no es algo que es un pedazo de ideal puesto en la realidad. Avanzado en físicamente dentro de un marco real. Y que esto se tiene que agradecer mucho a la mujer. Luego dice que el matrimonio se distingue del concubinato, se dice concubinato, bueno, el convivir, que el convivir, el concubina, es compartir placer, placer físico, y mientras que el matrimonio es algo sagrado. No entiendo cómo puede hablar de sagrado. Yo pensaba que era anarquista este cojudo. Y los anarquistas en Francia, sí, su lema es ni Dios ni maestro. No entiendo. Bueno, es, en fin. Lo voy a seguir leyendo el Proudhon y aquí a la antena para avanzar un poco más. Ahora casi se acaba Sexofonía, pero volveré a hablar de pornocracia porque es muy importante como libro. Y siempre sigue algo pendiente, ¿no? En la agenda de las mujeres. Siempre, no sé cuántas veces me han dicho, y me parece una tontería tan gorda, que especialmente gente de 60 años, la generación de nuestros padres, ¿no? Que la mujer es, vale más que el hombre, ¿no? Es esta tontería. Que supuestamente es una reverencia a la mujer, como si, pero es una manera de apartarla también de la sociedad real, de los que hacen las cosas de verdad, que la hacen mal, porque el mundo está mal, ¿no? Entonces, claro, el mundo está hecho por los hombres, lo que decía este cojudísimo James Brown, This is a man's world, y la mujer es como la persona que le absolve, ¿no? De todos sus pecados. O sea, es un anticristianismo. De una cierta forma es un cristianismo al revés. Como diciendo, el cristianismo dice que es la mujer que trajo a la manzana, a Adán, y de pronto se volvió ella misma el serpiente. Bueno, en fin, que es la mujer que ha traído el pecado mortal y el pecado original a la raza humana. Y por eso siempre estará con esta huella por encima. Pero otra parte, al revés, se piensa, se dice, muchos hombres muy machistas dicen también que la mujer es la salvación del hombre. Como si fuera apartada del régimen humano la mujer, como si fuera... que no estuviera en un régimen de violencia. Que yo creo lo es. Y la violencia es parte de la humanidad. Entonces, claro que una cosa, por ejemplo, que me dijo un abogado que vive aquí en Barcelona, que en las cárceles hay solo 5% de mujeres y representan poquísima población carceral las mujeres. Esto me pregunta, ¿es porque no tienen la ocasión? ¿Es porque no hay tanta... porque también en el mercado del robo o de la violación o de la matanza hay menos acceso de la mujer a esta violencia? ¿O porque por falta de fuerza, pues supuestamente, siguiendo este cojudo de Proudhon, que no es cierto, muchísimas mujeres tienen más fuerza que algunos hombres, pero bueno... ¿Será por falta de fuerza? ¿Será por falta de acceso a una violencia pública? Yo me pregunto, pero es que nunca se pregunta en estas cosas en este sentido, ¿sabes? Me acabo aquí. Este libro me ha revoltado. Me acuerdo que no podía dormir después porque siempre me empiezo a leer a las 2 de la mañana y es muy mala idea a veces porque cuando es algo así tan repelente... me da granos, o sea, no lo soporto, lo odio a este hombre. Y eso que pasó 150 años, pero como estas palabras aún las escucho en muchísimos hombres hoy en día, de otra forma, pero siempre con ese trastorno insoportable que la mujer es la belleza, la mujer es más idealista, más perfecta, más orgánica, que está más mezclado su mente a su cuerpo, el cuerpo vive dentro de ella, lo controla más, o sea, no, es más, o sea, toda esta manera de separar al hombre de la mujer me parece una huevada tan gorda. El problema es cómo contradecirlo, cómo, ¿no? Cómo luchar con estas cosas. Bueno, leyendo a los primeros o los grandes teóricos de tal sectorismo, tal sexismo, y entendiendo, ¿no?, un poco de cómo iba la cosa en el siglo XIX y por qué hoy todavía sigue siendo válidos para ciertas personas tales afirmaciones como que el matrimonio es algo sagrado o que la fuerza es atributo del hombre y la belleza de la mujer. Os dejo aquí. Un beso a todas y a todos. Nos vemos, hablamos la semana que viene, el miércoles. Os aviso que vuelve Filmolémpica, la filmoteca erótica del Raval, en el bar Lempica, que programo yo a una hora, más o menos, tres cuartos, una hora de fantasías eróticas filmadas por gente de Barcelona y extractos de películas también mezcladas. Os espero ahí. El bar Lempica está en la calle Carretes, número 18, a las 10 de la noche, este miércoles 10 de marzo. Un beso. Sexofonía.